Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est un grand spécialiste des comportements électoraux. C'est le directeur général opinion de l'IFOP.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Lors de ses vœux aux Français, le président Emmanuel Macron s'est posé en garant de l'unité. Unité, alors que la nouvelle année reste marquée bien sûr par la crise énergétique, par la crise sanitaire, s'ajoute la réforme clivante à venir des retraites. C'est le vrai défi, l'unité.
Oui, c'est un classique pour les vœux présidentiels de voir le chef de l'État exhorter à l'unité, au rassemblement, être volontariste, optimiste et mettre en avant les atouts du pays. Mais c'est vrai qu'il fallait parler d'unité quand on voit à quel point les crises ont fracturé le pays, le Covid, la crise sur le pouvoir d'achat. La fracture, c'est entre ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas. Le paradoxe, c'est que le président, le fil rouge de son intervention, c'était l'unité, mais pour autant, il a fait une annonce. La réforme des retraites, qui est une réforme très clivante.
Oui, d'ailleurs, retraite et unité, l'oxymore 2023. C'est l'édito ce matin dans les échos de l'excellente Cécile Cornudet. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Voici une réforme clivante quand un président appelle à l'unité.
Oui, elle est extrêmement clivante. Pour l'instant, la bataille de l'opinion va être très rude pour le gouvernement. Une donnée IFOP fiduciale récente, seuls 22% des Français, 22%, se déclarent favorables au passage de 62 à 65 ans. Ce qui est intéressant, c'est à quel point il y a un cap psychologique des 65 ans. Quand on teste le passage de 62 à 64 ans, c'est 2 ans de plus que la loi actuelle, on passe à 38%. Parce que je pense que psychologiquement, 65 ans, c'est l'enterrement définitif de la grande réforme mitterrandienne de 1981. Quand l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès avait fait une enquête sur les 40 ans du 10 mai, ce qui sortait spontanément du bilan de François Mitterrand, c'était pas la peine de mort comme dans les années passées, c'était cette réforme des retraites. Donc, de ce point de vue-là, 65 ans, c'est vu tout simplement comme la perte irrémédiable d'un acquis social, d'où une opinion extrêmement opposée, sans parler du 49-3 de la méthode.
C'est-à-dire que la réforme des retraites de ces années-là a supplanté l'abolition de la peine de mort dans notre imaginaire collectif ?
Tout à fait, dans notre imaginaire. En 2011, une enquête IFOP pour Jean Jaurès, la peine de mort, la cinquième semaine de congés payés, les premières semaines de l'état de grâce mitterrandien. Maintenant, c'est clairement, mais parce que en juin 2021, il y avait eu déjà une première, on était dans l'après, première tentative de réforme des retraites avec la réforme systémique d'Édouard Philippe. C'est clairement quelque chose qui est vu par les Français comme une perte d'acquis social. Donc la bataille de l'opinion va être extrêmement difficile, mais elle n'a pas vraiment commencé.
Mais Frédéric Dabi, pour la remporter, cette bataille de l'opinion, encore faut-il faire comprendre la finalité d'une réforme, et en l'occurrence cette réforme de retraite. Or, est-ce qu'on sait quel est le véritable but de cette réforme ?
Vous avez tout à fait raison. Pour une réforme réussie, c'est l'idée qu'il y a un chemin, il y a une finalité, il y a un but dans une certaine justice sociale. Là, ce qui me frappe, c'est à quel point la finalité de la réforme a changé. Premier temps, c'était une réforme pour se donner des marges de manœuvre budgétaires sur la transition écologique, sur la santé, sur l'hôpital, sur l'école. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a changé de pied. Il est revenu à la logique classique. Il faut faire cette réforme pour sauver le système. C'était la logique d'opinion qui avait été utilisée, il faut le dire maintenant, avec succès par Nicolas Sarkozy, François Fillon et Éric Woerth en 2010, où c'était une logique de der. C'est la dernière réforme pour sauver le système, mais malheureusement, depuis 2010, les Français sont un peu échaudés, puisqu'à chaque réforme, on leur dit c'est la réforme
dernière.
Ultime, finale, pour sauver un système des retraites auquel les Français sont très attachés.
Mais en réalité, qui est d'accord avec cette réforme ? Est-ce que ce sont les retraités qui s'inquiètent surtout pour leur pension, afin qu'elle soit sanctuarisée ?
Alors, clairement, aujourd'hui, en termes de catégorie d'opinion, il n'y a que les retraités, que les 65 ans et plus parallèlement, qui se déclarent favorables à cette réforme, sachant que vous le savez bien, que les retraités ne seront pas concernés par la réforme.
Sûr.
La mer est toujours plus jolie quand on n'est pas sur le bateau, si je puis dire. Et donc, dans ce cadre-là, on a une seule catégorie, qui est une catégorie centrale, qui est la catégorie qui a permis l'élection très large d'Emmanuel Macron au second tour à la dernière élection présidentielle, et qui est aujourd'hui la seule catégorie, peut-être avec les cadres supérieurs, au sein de laquelle le RN n'a pas percé.
Il y a quelque chose de frappant dans les vœux d'Emmanuel Macron. Frédéric Dabi, il parle d'unité, de solidarité. Mais prenons un exemple précis pour appréhender l'évolution de l'état d'esprit des Français sur la solidarité. Il y a une question que pose justement l'IFOP depuis une vingtaine d'années, je crois, la voici. Les chômeurs pourraient-ils trouver du travail s'ils le voulaient vraiment ? Et l'évolution des réponses à cette question est édifiante.
Oui, elle est très édifiante. Il y a 20 ans, il y avait un petit tiers des Français qui étaient favorables. Maintenant, on est à quasiment 70%, 67% dans une enquête IFOP pour l'humanité de septembre dernier. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est majoritaire également à gauche. Hein, les clivages se sont envolés, alors qu'en 2010, quand par exemple, Laurent Wauquiez avait parlé du cancer de la cistanas, ça avait créé un très fort choc d'opinion gauche-droite. Mais cette évolution que vous mettez en exergue, elle est liée au regard des Français sur le chômage, sur l'emploi, qui a fondamentalement changé. Une enquête IFOP Fiducial récente montre que le chômage, la lutte contre le chômage, n'est que la 10e préoccupation des Français.
Ce n'est plus
par
du tout une priorité.
Et ben, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a la petite musique des emplois non pourvus. Il y a l'idée qu'il y a du travail. Il y a également quelque chose qui a changé sur l'articulation chômage-pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour les Français, l'injustice suprême, ce n'est plus être au chômage puisqu'on peut retrouver un emploi. C'est vrai ou faux, c'est pas moi de le dire. L'injustice suprême, c'est avoir un travail qui paye mal. L'écart pouvoir d'achat, chômage dans les préoccupations des Français qui étaient avant très proches est maintenant de 20 points. Ça n'était jamais arrivé.
Alors venons-en donc à l'essentiel, le pouvoir d'achat, la grande inquiétude des Français. Il est très difficile d'anticiper, Frédéric Dabi, un mouvement social. Je le disais tout à l'heure à Dimitri en vous présentant. Vous n'êtes pas Madame Seule, mais vous connaissez bien,
non,
vous confirmez, l'état de l'opinion. Est-ce que le cocktail réforme des retraites et difficultés sur le pouvoir d'achat est un cocktail potentiellement explosif qui peut mettre du sel sur les fractures françaises?
C'est possible. Alors on est sur deux thématiques différentes qui envoient deux critiques différentes. La question, la tenaille inflation pouvoir d'achat qui inquiète puissamment, qui écrase tout, renvoie à l'absence de résultats de la part du gouvernement. C'est comme ça que les Français nous le disent. La situation ne s'améliore pas malgré l'échec, malgré les distributions. Alors que, on l'a dit tout à l'heure, la retraite, la réforme des retraites, c'est plutôt vu sous le sceau de l'injustice et de l'autoritarisme s'agissant d'un futur 49-3. Donc, de ce point de vue-là, la contagion apparaît difficile, mais on est sur deux sujets tellement forts qu'une étincelle peut faire, à mon avis,
Si je vous comprends bien, il y a les ferments de la colère, ils sont là, mais l'étincelle n'est pas tangible ou pas encore tangible.
Ben, je pense qu'on est dans un contexte de gilet jaunisation, je l'ai bien dit. C'est-à-dire qu'en 2018, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était un constat que l'on voit encore plus fortement, le travail qui paye mal. On voyait ces gens sur les ronds-points qui disaient « j'ai deux emplois, je n'arrête pas, je n'arrive pas à faire vivre ma famille ». Et il y avait un contexte de taxe, la taxe carbone. Ce double contexte, clairement, il est là. Maintenant, les ferments du mécontentement, d'une explosion sociale sont là également. Sentiment de déclin du pays, obsession sur le pouvoir d'achat. L'inflation qui n'existait pas en 2018. L'inflation, comment dire psychologiquement inquiète les Français. On a perdu tous nos repères là-dessus. Il ne manque que l'étincelle. Ce n'est pas à moi de le dire si elle est là, si elle va venir. Est-ce que c'est débat déjà très controversé sur les zones à faible émission? Est-ce que c'est un salariat qui pourrait basculer dans un vrai mécontentement au mois de janvier parce que très peu de salariés auront une augmentation supérieure à 6-7%, c'est-à-dire qui couvrirait le prix, le niveau de l'inflation. Il y a des ferments qui sont là et l'étincelle pourrait peut-être tout embraser.
Qui peuvent entraîner ces ferments, colère ou résignation, ça on ne le sait pas, mais il y a quand même quelque chose. Lors de ses vœux, le président a insisté sur le fait que si on se compare, on se console. On aurait mieux fait, Frédéric Dabi, sur les vaccins, nous, la France. On a mieux fait, nous, la France, sur l'inflation. On a mieux protégé, etc. Est-ce que cette rhétorique est crédible aux yeux des Français?
Alors, elle a été crédible sur le vaccin. C'est ce que j'avais appelé l'effet Eurovision. Vous vous en souvenez?
Oui.
On était, c'était ici, il y a un an, on en parlait déjà, les derniers. Et puis, petit à petit, la France est montée en puissance. Et c'est finalement un des pays qui a le plus et le mieux vacciné. En revanche, cette rhétorique, on est à 6-7% d'inflation versus beaucoup plus pour les autres pays, et audible, plutôt crédible intellectuellement chez quelques Français, mais ce n'est pas audible dans un contexte où l'inflation, l'enjeu, la tenaille inflation pouvoir d'achat, si je puis dire, est si anxiogène et si pesante dans la vie quotidienne. Une donnée IFOP récente, 63% des Français, et on n'a jamais observé un chiffre pareil, déclarent ne pas pouvoir épargner à la fin du mois une fois toutes leurs dépenses contraintes faites. Donc de ce point de vue-là, la comparaison plutôt avantageuse pour le gouvernement par rapport aux autres pays, ne fonctionne pas comme protection pour les pouvoirs publics.
Bien, Frédéric Dabi, vous parlez de cette tenaille importante, inflation, pouvoir d'achat, mais alors pourquoi le président n'a-t-il pas insister davantage sur ce thème majeur, cette obsession des Français qu'est le pouvoir d'achat. Oui, lors de ses vœux, pourquoi ?
J'en ai été étonné. J'avais trouvé cette anaphore qu'il a prononcée 6 ou 7 fois par notre travail et notre engagement plutôt intéressante, car elle est volontariste, optimiste et elle crée du lien entre les générations. Mais là où peut-être il y a un contresens, il n'a parlé que du travail, mais il en a parlé de manière abstraite. Pour les Français aujourd'hui, le travail, c'est d'abord avant tout la récompense du travail, le travail qui paye mal, et donc la question du pouvoir d'achat. Et donc, avec cette déconnexion, il a prêté le flanc à une certaine critique qui est toujours en germe depuis le début de même de son premier mandat. C'est un président si jeune qui n'a pas connu de difficultés, qui ne connaît pas la réalité du pays. Et c'est les critiques qui ont émergé, qui sont sorties après son intervention.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs, c'est l'analyse de Catherine Ney, il y a quelques jours dans le Figaro, qui a affirmé qu'Emmanuel Macron est à la fois hors norme et hors sol. Hors sol, vous reprenez, vous... Enfin, vous êtes un analyste, oui, hein, je ne vous demande pas la critique.
C'est clair que depuis le début de l'ère Macron, la critique la plus forte qui lui est associée, la source c'est le baromètre IFOP fiduciel pour Paris Match, c'est qu'il ne connaît pas vraiment la situation et les préoccupations des Français. Il a essayé de contrecarrer cette perception qui est quand même gênante, parce qu'on attend des politiques d'abord des résultats et de connaître la réalité du pays. Il a essayé avec le grand débat, il a essayé avec quelques interviews un peu emblématiques, celle de Zadig, où il s'est réinscrit dans le territoire national, les Pyrénées, la Picardie, le Nord, Paris, etc. Mais malgré tout, cette critique reste et elle est de plus en plus structurante d'un président qui parfois parle à vide, qui montre un optimisme qui est souvent perçu comme un décalage avec la réalité. Mais il faut le dire, on est dans une période jamais vue en termes de pessimisme, en termes d'incapacité des Français à se projeter et à projeter leurs enfants vers l'avenir. La situation est quand même très compliquée de ce point de vue.
En même temps, Frédéric Dabi, nous sommes après une campagne présidentielle. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé cette année. Normalement, on arrive à se projeter parce qu'une campagne, c'est un vrai moment de catharsis. Pourquoi ce ne fut pas le cas ?
Vous mettez le doigt sur la spécificité de cette campagne. Il n'y a pas eu ce moment cathartique où les Français regardent les candidats, qui regardent même la France au fond des yeux, qui débattent des grands sujets. D'ailleurs, nos indicateurs de jour du vote ont montré un niveau d'intérêt pour la campagne jamais vu. On se souvient, cette campagne a été phagocytée par le Covid d'abord, percutée pour ne pas dire anesthésiée par la guerre en Ukraine. Ce grand moment cathartique n'est pas arrivé. La preuve, c'est la première fois depuis que l'IFOP pose cette question qu'après une élection présidentielle, l'optimisme s'est effondré. Bien sûr, il y a un contexte extérieur, l'Ukraine, l'inquiétude, le dérèglement climatique, mais traditionnellement, même en 2012, où la campagne avait été finalement serrée entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, à chaque post-campagne présidentielle, l'optimisme des Français remonte parce que c'est on a débattu, on a mis les choses d'équerre, si je peux dire trivialement, et le pays va repartir.
On a compris quel est le grand talon d'Achille hein, aux yeux des Français d'Emmanuel Macron. Mais alors, quel est l'item sur lequel le président reste le plus crédible, Frédéric Dabi ?
C'est clairement l'international. Et ça avait été le cas aussi de ses prédécesseurs qui avaient fait un deuxième mandat, François Mitterrand après 88 et Jacques Chirac après 2002, parce que l'international lui permet d'activer ce que j'appelle une logique de distinction. C'est-à-dire que du macronisme, aujourd'hui, il ne reste plus peut-être qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Français, dans nos enquêtes, nous disent « il n'y a que lui ». Personne ne ferait mieux que lui. Imagine-t-on Marine Le Pen traiter de la question russo-ukrainienne, Jean-Luc Mélenchon, qui avait échoué sur sa marche sur le pouvoir d'achat, régler ce problème. C'est cette logique de distinction qui raconte aussi, hein, il faut le dire, Sonia Mabrouk, l'histoire de la défiance des Français vis-à-vis du politique. En 2012, ce n'est pas si lointain que ça, 22 personnalités obtenaient plus de 50% de bonnes opinions dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. En 2012, 22. En 2017, 8. En 2022, une seule, Édouard Philippe. Ça en dit long sur cette logique de distinction qui est aujourd'hui le principal levier de popularité d'Emmanuel Macron. La logique de transformation, de réforme, a pris du plomb dans l'aile.
Ce que vous dites rejoint ce que nous observons dans le baromètre annuel des personnalités préférées des Français. Alors là, il faut chercher le politique plus qu'à la loupe.
Ah, il faut le chercher. Il n'y en a que deux qui ont passé la rampe dans l'enquête IFOP JDD qui a été publiée samedi. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans le premier top 50 en 1988, il y en avait quasiment une vingtaine, de Jean-Marie Le Pen à Georges Marchais, d'André Lajoigny à François Mitterrand qui était troisième. Bah, ce baromètre, parfois, il prête à sourire, mais je trouve qu'il est passionnant parce que c'est le miroir de grandes tendances de la société française. Défiance vis-à-vis des politiques, admiration vis-à-vis de scientifiques. Thomas Pesquet, et c'est une arme anti-déclin, arrive en deuxième position. Montée des comiques comme dérivatif vis-à-vis de la crise, ascension des sportifs et recul des personnalités de la télévision compte tenu de l'évolution du système médiatique.
En fonction de ce que vous avez dit, nos voeux pour les Français, c'est une bonne dose de progrès scientifique, beaucoup d'humour et j'allais dire du sport.
Ah, c'est un cocktail qui me va très bien, mais pour les Français, aujourd'hui, c'est d'abord des résultats sur
évidemment.
La question du pouvoir d'achat. Et il y a également, c'est ça qui est, je trouve, très intéressant, le pouvoir d'achat, j'ai dit tout à l'heure qu'il écrasait tout, mais il n'a pas fait disparaître l'inquiétude sur le climat. La bataille d'Hernani qu'on avait observée par le passé, fin du monde, fin du mois, bah les Français font la part des choses et ce que les jeunes ont insufflé sur la préoccupation climatique, sur les constats, il y a désormais un affadissement des clivages. Tout le monde est d'accord sur le constat, le climat.
Que de grands défis. Merci, résumé par Frédéric Dabi ce matin. Merci à vous et bonne journée. Évidemment, meilleurs vœux également.
Merci beaucoup.